21h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et on retrouve Afrique Soir, Sylvie Berruet.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Regain de tension entre la France et l'Algérie. Alger expulse 12 fonctionnaires français. Elle leur donne 48 heures pour quitter le territoire algérien. Une mesure de représailles après l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens. En Guinée-Bissau, la Ligue des droits de l'homme inquiète pour son président Aboubacar Touré, dont elle est sans nouvelles depuis plusieurs jours. Il avait critiqué un service hospitalier de Bissau, des propos jugés diffamatoires par les autorités. Nous reviendrons sur la disparition brutale à l'âge de 58 ans du dramaturge béninois José Plia. Et enfin, Youssou N'Dour, la star sénégalaise, aurait voulu être joueur de foot professionnel, mais la musique a été la plus forte. Il l'a dit dans Radio Foot International cet après-midi, vous l'entendrez dans ce journal. L'accalmie aura donc été de courte durée entre l'Algérie et la France, une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger. Le ton monte de nouveau entre les deux capitales. On a appris ce matin que 12 fonctionnaires français avaient reçu l'ordre de quitter le territoire algérien dans les 48 heures. Une décision qui fait suite à l'arrestation de 3 ressortissants algériens mis en examen vendredi à Paris. Magali Lagrange.
Dans un message écrit à la presse, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que les autorités algériennes ont demandé à 12 agents français de quitter le territoire algérien en réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Pourtant, pour le Quai d'Orsay, ces mesures d'expulsion sont injustifiées au fond et sans rapport avec les faits dont sont soupçonnées les 3 personnes arrêtées vendredi. Jean-Noël Barrot demande donc aux autorités algériennes d'y renoncer, sinon la diplomatie française sera forcée de réagir à son tour. Vendredi, 3 ressortissants algériens ont été mis en examen en France pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. Les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé puis séquestré il y a presque un an un influenceur critique du régime algérien, Amir Boukors, alias Amir DZ, qui est réfugié en France depuis 2016. Le ministère des Affaires étrangères algérien a immédiatement fustigé une cabale judiciaire inadmissible, laissant craindre une nouvelle escalade des tensions diplomatiques après une brève éclaircie.
L'enlèvement hier soir à Agadez au Niger d'une femme de nationalité suisse et nigérienne, Claudia Abt, c'est son nom, est ethnologue et linguiste de formation. Elle est née au Liban. Elle avait lancé à Agadez une association locale d'aide aux artisans. Pas de revendication, mais ce rapt survient peu après ceux d'une Autrichienne, Eva Gretzmacher, 73 ans, et de 4 Marocains, tous attribués à l'État islamique au Sahel. L'inquiétude de la Ligue des droits de l'homme en Guinée-Bissau, l'organisation de défense des droits humains se dit sans nouvelles de son président Boubacar Touré. Jeudi, celui-ci a dénoncé des cas de décès dans un service hospitalier. Le lendemain, des hommes armés se sont présentés devant son domicile et ils sont entrés samedi. Et ce lundi, Fodé Mané, juriste et membre du collectif d'avocats de la Ligue des droits de l'homme de Guinée-Bissau, fait part de sa préoccupation.
Si même la Ligue des droits de l'homme et l'ordre des avocats sont visés, personne en Guinée-Bissau n'est en sécurité. Nous n'avons aucune nouvelle de Boubacar Touré. Selon nos informations, il n'a pas encore été arrêté, mais nous ne connaissons pas l'ampleur des moyens utilisés pour le trouver. D'après nos échanges, ceux qui le cherchent sont aux ordres du département d'information et d'action pénale, à cause d'une plainte déposée par le ministère de la Santé. Mais la Ligue a un siège, des avocats, pourquoi ne pas contacter l'organisation? C'est une procédure que les autorités connaissent, elles y ont recours quand ça leur convient. Nous ne savons pas ce qu'il y a derrière tout ça. La famille a déclaré que samedi, 5 individus armés sont entrés dans la maison et l'ont fouillé. Hier dimanche, c'était le jour d'arrivée du bateau qui fait la liaison avec les îles. Peut-être qu'on le soupçonnait d'être sur le bateau. 4 véhicules, des personnes en civil, des policiers étaient là pour interroger tous les passagers, pour savoir où il était allé et pour intimider les gens.
Des propos recueillis par Ligia Anjos de la rédaction lusophone de RFI et sur son compte X, le Sénégalais Alioune Tine, figure des droits humains et civiques en Afrique de l'Ouest, appelle lui à la libération immédiate et sans condition de Boubacar Touré. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que des pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 se poursuivent au Qatar, à Doha. Sur le terrain, la situation reste tendue dans plusieurs zones du Sud Kivu. Les Wazalendo, qui sont les combattants alliés aux forces armées régulières de la RDC, mènent des incursions et attaquent des localités qui étaient jusque-là contrôlées par l'AFC M23. Ces affrontements qui ont débuté à la fin de la semaine dernière se sont intensifiés cette semaine, en particulier dans le groupement d'Irambi Katana. C'est une zone qui abrite deux centres commerciaux, Katana Centre au sud et Kabamba au nord, séparés par une dizaine de kilomètres seulement. Et ces deux localités, Patient Ligodi, ont été durement touchées par les combats.
Depuis 10h ce lundi, des tirs ont résonné dans le secteur nord de Katana, situé dans le territoire des Kabarés au sud du lac Kivu. Selon des sources locales, les affrontements ont été déclenchés par une embuscade tendue par les Wazalendo contre les combattants de l'AFC M23. Les combats se sont concentrés autour du centre de Kabamba et de la localité voisine des Mabingu, située à moins de 2 km au nord de Katana, à environ 10 km de distance. Armés principalement des fusils AK-47 et parfois vêtus de treillis, ces Wazalendo, originaires du haut plateau de Kalehe, sont les seuls acteurs présents sur le terrain et mènent les affrontements contre l'AFC M23. Face à l'intensité des combats, les habitants de Kabamba ont fui, abandonnant notamment le plus grand marché de la localité qui se tient chaque lundi et vendredi. En fin de journée, un calme précaire semble s'être installé dans la zone. Les combattants de l'AFC M23 ont commencé à reprendre les positions perdues ces derniers jours. En début de soirée, les forces de l'AFC M23 ont déployé leurs troupes le long de la route nationale numéro 2 entre Kavumu et Katana, renforçant leur présence sur ces tronçons jusqu'à Kabamba.
Patient Ligodi. Au Bénin, le procès devant la CRIET de Steve Amoussou, accusé d'être le cyberactiviste frère Unvi, très critique du président Talon sur les réseaux sociaux. Le parquet a requis aujourd'hui une peine de 2 ans de prison, 1 million de francs CFA d'amende, autrement dit environ 1500 euros. Ses avocats évoquent un dossier vide, il réclame sa relaxe. Steve Amoussou est poursuivi pour provocation à la rébellion, diffusion de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique. Le verdict est attendu le 26 mai. Le monde de la culture africaine en deuil. José Plia est mort samedi à l'âge de 58 ans alors qu'il était en déplacement aux États-Unis. Cet écrivain, poète et dramaturge laisse une œuvre théâtrale riche, récompensée en 2023 par l'Académie française. Ces dernières années, il avait dirigé l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme au Bénin avant de rejoindre la présidence béninoise comme chargé de mission et à la culture auprès du président béninois. Alain Godonou, chargé de mission au patrimoine et au musée auprès de Patrice Talon, répond à Pierre Firsion.
Il avait du talent, il a dirigé des instituts français et des centres culturels. Il était connu pour sa qualité d'écriture, c'était un passeur, un homme de liaison. Il travaillait beaucoup sur toutes ces questions liées aux arts et à la culture. Il a été d'abord le premier directeur général de la NPT, notre agence qui s'occupe du patrimoine et du tourisme. Dès 2016, le président de la République lui a confié la responsabilité, la mission de monter cette agence qui a donné les résultats que nous connaissons tous aujourd'hui. En 2016, révéler le Bénin par son patrimoine, en faire une destination touristique. C'est une chose de mettre en place, de semer, autre chose de venir après pour les gérer. Donc, nous devons à José avoir reçu cette mission et l'avoir accomplie diligemment avec tout son enthousiasme.
Voilà, propos accueillis par Pierre Firsion. Youssou N'Dour est l'invité d'RFI aujourd'hui. Vous l'avez sans doute entendu dans Radio Foot International. Il a dit qu'il est fan de foot, du ballon rond. Il aurait voulu même être footballeur professionnel. Mais la musique l'a emporté. Elle a été beaucoup plus forte. Youssou N'Dour se souvient de son enfance lorsqu'il courait après le ballon rond. Il est aujourd'hui âgé de 65 ans. On l'écoute.
Le football, c'est d'abord la rue. Comme on passait beaucoup de temps dans la rue, et bon voilà, c'est un moment où on partage le ballon et chacun appréciait. Et bon, je pense que j'étais encouragé par mes grands frères, par mes oncles. Et chaque fois qu'il y avait des matchs organisés dans la rue, bon, on parvenait à gagner quand même dans le petit cercle de notre quartier. En fait, j'étais numéro 9 et bon, j'étais bon. Hein, je pense, autour de notre équipe, je marquais des buts. Je donnais des passes décisives. Et donc, au fil et à mesure, j'étais passionné. Je continue. Je pensais même que j'allais faire une carrière de footballeur. Mais la passion de la musique l'a emporté.
Youssou N'Dour qui sera dans Couleur Tropicale ce soir 22h10, temps universel, et en concert à Paris samedi, ce sera à l'Olympia.